Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Bien, merci d'écouter la radio Capi. Comment assurer l'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap? On en parle à présent avec José Moubi. Vous savez, les personnes vivant avec handicap physique éprouvent souvent des difficultés pour trouver du travail. Elles sont souvent victimes de la discrimination de la part de leur entourage. Bon nombre d'entre elles passent des moments difficiles du fait que le marché de l'emploi leur est fermé. Alors que faire pour les intégrer dans le monde du travail? On en parle avec José Moubi, président de l'ONG APGIV, Action pour la protection et la promotion des droits et intérêts des vulnérables. José Moubi, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Maître José Zoubi, c'est pas Zoubi, c'est pas Moubi.
José Moubi.
Zoubi, Z-U-B-I, Z.
Voilà, Maître José Zoubi, merci. Alors, dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui des personnes vivant avec handicap par rapport à l'emploi?
Un grand merci, José, pour cette opportunité que vous nous accordez de nous adresser à notre population. La situation, vous l'avez si bien résumée déjà, elle est très, très précaire, elle est très difficile. Nos membres qui vivent avec un handicap éprouvent beaucoup de difficultés. D'abord, ceux qui sont des enfants, même pour étudier, ils doivent d'abord lutter avec tous les préjugés. Il y a parfois les parents qui ne payent pas facilement les normales pour eux. Quand difficilement ils parviennent quand même à terminer les études, les marchés de l'emploi ne leur est pas garanti. On leur refuse parfois certains postes tout simplement de suite de leur handicap. L'État congolais donne l'impression de ne pas avoir une politique claire en matière de la personne avec handicap. Donc il y a pas mal de défis à relever en ce qui concerne la question de la personne avec handicap. Mais surtout, maintenant nous plaidons vraiment pour que notre gouvernement puisse ratifier cette Convention internationale des droits des personnes avec handicap. On dirait que nous paraissons comme un petit îlot là, dans le monde, alors que beaucoup de nations déjà, je dirais même les 4/5 des pays du monde ont déjà ratifié cette convention internationale des droits des personnes avec handicap. Mais au niveau de notre pays, on dirait qu'on traîne encore les pieds. Alors, nous ne savons pas très bien ce qui se passe. Voilà un peu notre combat de tous les jours, quoi.
Alors, vous voulez dire que les droits des personnes vivant avec handicap sont bafoués, tout simplement parce que l'État congolais n'a pas encore signé cette convention?
Non, pas seulement signé, mais on dirait qu'au niveau national, je dis, il n'y a même pas vraiment une politique claire. Tu vois, par exemple, quand vous voyagez beaucoup, vous savez qu'ailleurs, à travers le monde, on a souvent adopté une législation selon laquelle chaque entreprise qui œuvre sur l'espace national doit avoir dans l'effectif de son personnel un certain pourcentage de personnes avec un handicap. Mais ici, chez nous, même nos amis qui ont terminé leurs études, qui sont compétents, mais ils ne peuvent pas être engagés tout simplement puisque d'abord les responsables d'entreprise parfois les discriminent et l'État qui devait les sécuriser ne fait rien pour les sécuriser. Et maintenant nous sommes en train de lutter pour que le gouvernement puisse prendre également cette disposition qui obligerait toutes les entreprises qui œuvrent sur notre territoire à engager les personnes avec handicap. Nous avons appris que déjà au niveau du Katanga, Moïse Katumbi avec son gouvernement provincial a déjà pris cette mesure-là et nous croyons qu'au niveau national, on devait l'intensifier, je dis.
Oui. Nous voyons par exemple à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap sont quand même des personnes qui entreprennent certaines activités, qui créent de l'emploi. On voit bon nombre d'entre eux traverser le fleuve vers Brazzaville et reviennent et font du commerce. Mais déjà, c'est quelque chose de positif.
Oui, c'est vrai, je dis. Mais moi, j'ai pas souvent été d'accord que vous preniez nos amis qui traversent le fleuve comme une référence. Parce que vous savez très bien que ces gens-là, ils travaillent en informel. Dans ce pays, tout le monde vit de l'informel et ces amis-là se débrouillent. Le jour où ils tombent malades, vous leur demandez seulement comment ils vivent avec leurs enfants, ils n'ont aucune sécurité, ils ne sont même pas assurés du lendemain. En fait, c'est la débrouillardise, tout simplement. On ne peut pas considérer ça comme un cadre pour leur permettre de vivre, mais c'est vrai qu'il y en a parmi les personnes avec handicap qui ont des petites entreprises, mais encore faudrait-il que l'État puisse leur venir en aide aussi, puisque vous savez très bien que même les commerces dans ces pays, ça pose problème pour prospérer. Bon, c'est vrai que nous sommes fiers de notre ami Martin Ekanda, qui est le promoteur de l'ICIPA. Ça, ça marche bien. Mais ailleurs, à part lui, qui d'autres commerces viennent comme ça dans l'informel aussi? C'est difficile, je vous dis. C'est pour ça que nous disons que l'État congolais doit absolument s'occuper de la question de la personne avec handicap. Hier, quand nous étions encore au Théâtre de Verdure, où nous avons lancé notre festival, les Versos du handicap, avec le ministre Charles Laouège, il nous a promis que cette question-là allait être débattue hier même dans l'après-midi au Conseil des ministres. Nous attendons voir ce qui va en arriver, mais sinon aujourd'hui, nous croyons qu'il y a beaucoup à faire encore, quoi, quant à ce qui concerne la réinsertion et surtout la promotion de la personne avec handicap. Ça paraît assez paradoxal aujourd'hui. Oui. Quand vous consultez notre constitution, dans l'article 49, il est écrit noir sur blanc que l'État devait concourir à la promotion de la personne avec handicap et qu'on devait au moins la faire intégrer dans toutes les institutions décisionnelles du pays. Oui. Regardez tout simplement, et je ne voudrais pas prendre le gouvernement comme modèle, mais regardez dans nos institutions, il y a combien de personnes avec handicap qui œuvrent.
Oui.
Il n'y en a presque pas. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est l'intelligence qui manque aux personnes vivant avec handicap. Donc, on viole tout simplement aussi une disposition constitutionnelle.
Oui.
Tous nous regardons là, et on nous promet qu'il y aura une loi qui devra être prise. Mais quand même, cette loi-là, nous l'attendons. Mais nous ne restons pas bras croisés. Voilà. Nous continuons à faire le lobbying pour que cette loi-là soit adoptée, quoi.
Maître José, si vous êtes à côté d'une radio allumée, je veux vous demander tout simplement de l'éteindre pour éviter les effets Larsen à l'antenne. Entre-temps, nous allons accueillir deux auditeurs. Modeste Mwamba nous appelle de Kinshasa et Mitterrand Gibale de Kikuyi dans la province du Bandundu. Vous voulez également participer? Composez le 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Comment assurer l'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap? Modeste Mwamba de Kinshasa, bonjour.
Merci. Bonjour, monsieur. Jody Daniel Kassama. Je suis Modeste Mwamba de la de Kananga, Kassai Occidental, précisément dans la cité de Lukonga.
Vous êtes à Kananga et non à Kinshasa, t'as dit.
Non, à Kinshasa.
On vous écoute, Modeste.
Oui, concernant la question que la radio Kapi a lancée dans cette émission, je voudrais un peu faire comprendre ce que aux gens. Il y a d'abord certains facteurs qui font que l'individu ne puisse pas d'abord se procurer quand même une profession dans sa vie future. D'abord, nous envisageons les facteurs endogènes. Après, nous allons faire face aux facteurs endogènes. Mmh. Alors, quant aux facteurs endogènes, il faudrait d'abord qu'on passe à la persuasion du handicap que l'individu est en train de traverser ou du handicap de la victime elle-même. Alors, en dehors de cela, je voudrais un peu faire voir que dans le facteur endogène, on voit l'environnement immédiat de l'enfant, premièrement sa famille. Il faudrait que la famille du handicapé puisse d'abord reconnaître que l'individu a une maladie qui peut faire à ce qu'il ne puisse pas se procurer un boulot ou une profession dans sa vie. C'est ainsi, avant d'arriver à l'étape socio-professionnelle, on doit d'abord discuter avec la scolarité de l'enfant. C'est-à-dire que si la scolarité n'est pas d'abord permise à l'enfant, alors je ne crois pas qu'il y aurait quand même une intégration sociale. Il faudrait passer par la psychologie scolaire. Il faut soutenir l'enfant qui est avec handicap ou qui se sent à l'aise parmi les autres qui sont des conditions de classe.
Merci.
Ne puisse pas les discriminer en classe.
Voilà.
C'est la partie de la classe. C'est la classe qui dicte le choix professionnel de l'enfant.
Voilà.
Moi, je suis dans l'orientation scolaire pour ça.
Merci Modeste. On retient que d'après vous, tout doit commencer, l'encadrement de la personne vivant avec un handicap commence par la famille, la scolarité. Donc il faut bien lui donner la chance de bien étudier à un enfant qui vit avec handicap, et ainsi l'intégration professionnelle ne posera pas problème plus tard. Mitterrand Guibal et Akekwit, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et aussi aux auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix.
Mitterrand, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup. En fait, l'intégration des personnes vivant avec handicap pose beaucoup de problèmes, monsieur le journaliste.
Oui.
Car ils sont souvent objets de marginalisation, ils sont traités avec indifférence dans les différentes communautés. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis en deuxième licence, je suis à l'USP Kipuit. J'ai étudié avec un ami qui avait aussi les ambitions de venir étudier, donc faire les études supérieures. Mais quand il est venu, nous avons pris l'inscription en première année graduée. Toutefois, lorsqu'il venait en retard, il était objet de moquerie. Lorsqu'il venait en temps, parce qu'il était handicapé, il ne pouvait pas se disputer comme les autres pour avoir la place, ainsi de suite. Et aussi, l'ami s'est trouvé découragé, il a laissé les études. Mais moi, je suis un deuxième graduat. Vous voyez que l'État n'a pas un mécanisme pour aider ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas des inutiles. Ce sont des gens qui sont aussi outillés, ils sont intelligents, ils peuvent aussi rendre service à cette nation. Mais vous allez remarquer que l'État ne s'occupe pas de ces gens-là. Et même de famille. Vous remarquerez une famille composée de 5 enfants, les parents s'occupent que de ceux qui sont en bon état, mais pas souvent les handicapés.
Alors, Mitterrand, vous dites que votre ami...
Mitterrand, je vous écoute.
Vous avez dit que votre ami a abandonné les études. Pourquoi?
Mon ami avait abandonné les études. D'abord, il était désolé dans le sens que toutefois, lorsqu'il venait, les gens le regardaient, les rigolaient. Et vraiment, il n'était pas motivé. Même lorsqu'il venait en retard, tout le monde devait le regarder, le rigoler. Et il était des fois objet d'insultes. Et il peut venir à temps, il a eu une bonne place. Mais il y aura quelqu'un qui viendra lui écouter, mettre debout, le menacer, ainsi de suite. Et finalement, nous sommes intervenus pour l'aider, mais je ne sais pas, il a laissé les études. Aujourd'hui, je vous parle, il est là, il n'étudie pas, il est là. Et la famille aussi, c'est comme si c'était une façon de les tenter d'aller étudier comme ça. Maintenant, la question que je vais poser à l'invité, de savoir, quelles sont les contraintes que peut rencontrer un handicapé lorsqu'il est engagé dans le domaine de la pédagogie? Surtout nous qui sommes dans les instituts supérieurs pédagogiques. Alors, je ne sais pas, nous aurions à faire surtout avec les élèves. Alors, qu'est-ce que vraiment un handicapé peut rencontrer comme contrainte lorsqu'il est déjà engagé, il travaille dans le domaine de la pédagogie avec les élèves? Voilà.
Merci. Madonna nous appelle de Kindu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'aimerais dire, par rapport à la situation de l'handicapé, j'aimerais dire qu'il fallait que les parents, d'abord, commencent à valoriser leurs enfants en les envoyant à l'école, de peur que s'ils ont terminé l'école, je pense qu'il y aura moyen que l'État les engage, même si en ayant leur handicap. Et il faut que l'État aussi voie l'état aussi des handicapés qu'il faut engager. Il faut pas seulement engager l'handicapé parce qu'il est handicapé pour aussi lui donner la valeur et puis il va travailler pendant qu'il y a aussi les gens qui ont moyen, la possibilité de travailler à leur place. C'est que j'aimerais dire, il faut que les parents prennent soin des enfants qui sont handicapés.
Bien, merci pour cette question. Vous voulez également participer, composez les 081-890-6394.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment assurer l'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap? Voilà, Maître José Zoubi qui était au téléphone tout à l'heure, maintenant il est en face de moi dans ce studio. Maître, rebonjour.
Oh, rebonjour, je dis.
Voilà, alors nous avons quelques questions des auditeurs. Il y a Modeste de Kananga qui dit la valorisation de la personne vivant avec handicap doit commencer par la famille. Ouais. Les familles doivent bien encadrer les enfants, absolument, les envoyer à l'école. Mitterrand de Kikwit nous parle même de son ami qui vivait avec handicap, qui étudiait mais qui a dû abandonner les études parce qu'on s'est moqué de lui, l'entourage s'est moqué de lui. Alors, il nous pose la question de savoir quelles sont les contraintes d'un enseignant à qui vit avec handicap, qui se trouve devant les élèves, comment cela va se passer. Et Madonna de Kindu qui nous dit que les parents, tout commence par la famille. Les parents doivent valoriser leurs enfants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs, Maître José?
Merci, Jody. J'ai dit que tous ces auditeurs, ils ont raison. Mais je me dis plutôt que ça, nous avons toujours expliqué à nos amis les personnes avec handicap. C'est-à-dire que pour qu'on puisse vous respecter ou pour qu'on puisse vous accepter, il faut que vous-même d'abord, vous puissiez faire un effort mental. Vous devez commencer d'abord par vous accepter vous-même comme étant quelqu'un qui a quelque chose à apporter à la nation. Vous devez d'abord lutter d'abord contre, avec tous les complexes parfois qu'on peut développer, puisque qu'on se les dise, votre environnement fera tout pour vous rappeler toujours que vous avez une certaine déficience sur votre corps. Mais vous-même, d'abord, vous devez surmonter cet obstacle-là, qui est d'abord mental. Quand on le surmonte soi-même et qu'on s'accepte...
Il faut vaincre ces complexes d'infériorité.
Exactement. Quand vous parvenez à surpasser ces niveaux-là et que vous vous acceptez, vous n'aurez plus de complexe devant les gens. Puisque, vous savez qu'il peut arriver facilement. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Le jour où je suis allé épouser mon épouse à moi, j'ai commencé d'abord par lui dire, vous mettez le sol à la drague, c'est-à-dire comment je suis arrivé à la baratiner. Oui. Moi, j'ai dit à mon épouse, écoutez, vous m'acceptez en mariage, mais reconnaissez que je suis personne vivant avec handicap. Donc, il peut arriver qu'un jour, lors d'une ou quoi, que je puisse tomber devant les gens, que ma béquille glisse et que je puisse tomber. Bon, il faut d'abord que toi tu puisses te surpasser, que tu m'acceptes, que je peux tomber facilement devant les gens, que je peux peut-être faire poser un geste qui va peut-être te déplaire. Et ma femme a accepté cela et elle est tout à fait épanouie. Moi-même, j'ai étudié, je vous dis, une fois. Ce qui est aussi vrai, c'est que les personnes...
Racontez-nous un peu votre histoire dans votre famille. Est-ce que vos parents vous avaient soutenu, on vous a envoyé à l'école facilement? Comment ça s'est passé dans votre entourage?
Je vais peut-être vous surprendre désagréablement, c'est que même mon père à moi ne croyait pas que je pouvais être diplômé d'État. Mon père à moi pensait que j'allais juste terminer les niveaux du primaire et puis j'allais être un couturier, puisque généralement c'est ça le métier que vous avez réservé aux personnes avec handicap. Ils doivent être tailleurs, ils doivent être cordonniers juste au coin de la rue pour rafistoler un peu vos chaussures. En fait, mon père à moi aussi pensait que j'allais être tout simplement un couturier. Il ne s'imagine jamais, malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, il est déjà parti, il nous a précédé à l'au-delà, mais je ne sais pas s'il pouvait s'imaginer qu'un jour, moi, je pouvais être licencié en droit public international. Donc, quand on m'a inscrit à l'école, moi, je suis allé, mon père pensait que je terminerais tout simplement les cycles du primaire. Mais heureusement, je vous dis, c'est que les personnes avec handicap aussi, pour la plupart d'entre elles, ce sont déjà très intelligents. Alors, moi, quand j'étais inscrit, souvent, j'étais toujours premier des classes. Alors, puisque j'ai terminé, j'étais toujours premier des classes, il s'est fait que je me suis retrouvé également, par la grâce de Dieu, dans un environnement, dans un collège, des pères jésuites qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi et qui ont dit, avec mon intelligence, je pouvais terminer les études, je pouvais aller loin. C'est comme ça que j'ai eu la grâce de terminer les études avec le soutien de ces serviteurs de Dieu. Et puis après, j'ai affronté l'université. Mais croyez-moi, il y a tous des colibés que nous ramassons de la part des amis. Il y en a parfois qui vous découragent, qui vous disent, même si toi, tu étais premier de la classe, où irais-tu avec ton diplomatoire. Il faut nous laisser, nous autres, terminer les
études. Mais vous avez tenu bon.
Mais bien sûr, il faut affronter tout cela. Il faut savoir les dépasser. Et puis, ça aussi, c'est une façon de se faire intégrer dans la société. Voilà. Parce que, écoutez, quand vous êtes dans une classe, par exemple, de 50 élèves et que toi, tu te retrouves seule personne avec handicap, tu dois faire tout pour être parmi les meilleurs.
Pour être le meilleur, voilà.
Il faut compenser cette déficience. Comme ça, les autres viendront vers toi. Puisque dans ce monde, nous sommes dans un monde des intérêts, je dis. On ne vient qu'à vers celui à qui on peut recevoir quelque chose. Toi, d'abord, tu ne pourras même pas jouer au football, tu ne pourras même pas courir, tu ne pourras même pas jouer avec eux. Alors, tout ce que tu peux leur donner, toi, c'est ton intelligence à toi. Pendant qu'eux sont en train de jouer au football, toi, tu dois aller étudier. Et quand il y a intérêt, toi, tu es premier. Alors, tous viendront vers toi. Ils vont trouver que tu es important. Ouais. Mais quand toi-même, d'abord, tu ne sais pas étudier, tu es faible, et tu te dis, bon, moi, on m'acquise de tout, on se moque de moi. Alors, c'est normal qu'on puisse encore se moquer de vous davantage.
Voilà. Mais si vous on retient que pour assurer l'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap, tout commence par la personne elle-même.
D'abord elle-même.
Elle-même.
D'abord.
Ouais. Puisque, tu dois vaincre le complexe d'infériorité.
Absolument. Il y a même des parents qui ne croient même pas à leurs enfants. Donc, il ne faut pas attendre que les parents puissent d'abord vous valoriser. Si vous êtes né dans une famille où vos parents vous acceptent et vous encouragent, tant mieux. Mais sinon alors, croyez-moi que même au niveau de votre famille, vous aurez des oppositions.
Mais si les parents n'acceptent pas de vous payer les minéraux, maintenant, comment allez-vous, qu'est-ce que vous allez faire?
Je connais des amis ici même qui ont des ateliers, qui sont des très bons cordonniers, vous comprenez. Il y a toujours quelque chose
qu'on peut faire.
Je dis, il y a toujours quelque chose qu'on peut donner aux autres. Il y a toujours, quelqu'un avait dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, personnes avec handicap, soyons fiers de donner aux autres ce que nous possédons, nous. Et ce que nous possédons, d'abord, c'est la matière grise que Dieu nous a donnée gratuitement. Bon, vous devez évoluer comme ça, mais sachez que partout, vous aurez toujours des oppositions, mais tout dépendra de la façon dont vous aurez à réagir. Soit vous croisez les bras et vous commencez à pleurer, bon ça va, et puis vous laissez les trains passer. Soit vous dites non, moi je dois lutter,
je
et
dois
puis vous ferez une place au soleil. Quoi.
Voilà, Jean Banzo nous appelle de Kolwezi au Katanga, bonjour. Jean, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
J'attends depuis Kolwezi, précisément dans la situation de Kolwezi. J'ai une préoccupation sur la suivante.
Oui.
Nous savons que nous avons des sortes d'handicap. Il y a l'handicap naturel, c'est-à-dire là nous avons Dieu, et puis il y a aussi l'handicap qui peut être causé par un accident. Alors, moi, je voudrais poser la question à l'idée. Qu'est-ce que la loi congolaise pour quelqu'un qui a commis un accident de service et qui reste handicapé? Je ne sais pas, qu'est-ce que la loi congolaise dit pour cette personne-là? Parce que qu'est-ce qu'on a constaté après l'accident de service? L'homme qui a commis l'accident est directement oublié après l'avoir remercié parce qu'il n'est plus ici, mais je ne sais pas. Alors, je pose la question. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Merci. Maître José.
Merci. La loi congolaise dans cette matière-là, mon frère, je dirais même qu'elle est un peu lacunaire aussi, puisque il est dit quand vous connaissez un accident de service, normalement on doit vous prendre en charge jusqu'à couvrir tous les frais que vous aurez à engager dans les hôpitaux. On doit vous supporter. Mais là aussi, il faut bien reconnaître que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, des intérêts. On ne va pas vous supporter éternellement. Jusqu'à un certain moment, on devra être obligé de vous indemniser, mais ce qu'on devra vous payer devra compenser l'infirmité que vous avez. S'il est vrai que vous ne travaillerez plus toute votre vie, l'employeur devra prendre des dispositions pour qu'on puisse vous payer quelque chose qui puisse vous permettre de survivre tous les restes de vos jours. Oui. Je connais même des entreprises qui s'organisent jusqu'à engager soit l'un de vos enfants, soit votre épouse, mais en tout cas, on continue à vous assister. Mais est-ce qu'on les fait? Je ne sais pas. Mais le problème là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait alors aux entreprises qui ne parviennent pas alors à supporter ces employés qui ont connu des accidents au niveau des services et qui n'ont pas été pris en charge jusqu'à la fin de leur vie. Vous comprenez? Le problème, si c'est nous, c'est que vous pouvez peut-être commencer une procédure, puis à un certain moment, vous-même vous laissez tomber et puis parfois vous ne prenez même pas les avocats pour vous défendre. Donc ça, c'est à ce moment-là que ça devient difficile. Mais il est dit que votre employeur doit vous prendre en charge et doit vous supporter et il doit payer des frais normaux qui devront couvrir, qui devront être proportionnels au degré de l'handicap que vous avez connu au niveau de service.
Bien. Stony Mulengabo nous appelle depuis Uvira, au sud Kivu. Stony, bonjour.
Ok, bonjour, monsieur Jody Kachama. Bonjour, maître.
Bonjour, frère.
On vous écoute.
Ok, je vais d'abord me présenter même en quelques mots. Je suis Stony Mulengabo, coordinateur et initiateur d'une organisation des malvoyants ici à Uvira. Je vais d'abord intervenir en rappelant les autres que, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ont intervenu ne font qu'allusion au fait que nous appelons handicapé moteur. Il y a d'autres sortes d'handicaps comme l'handicap sensoriel, il y a les sourds, il y a les aveugles, les malvoyants. Ça m'amène à poser trois questions, maître. La première, je veux que l'invité puisse me dire comment est-ce qu'une personne malvoyante ou non-voyante peut faire pour trouver un emploi digne. Pour la deuxième question, je veux savoir que lui qui maîtrise déjà la convention relative aux personnes handicapées, est-ce que la ratification de ces documents par notre gouvernement, comment est-ce que ça va changer les conditions de vie des Congolais moyens qui vivent dans le fin fond du pays avec handicap, avec son handicap? Et pour la troisième question, je veux que Bon, je vais demander au maître s'il peut volontairement nous donner ses coordonnées. Merci.
Ok. Merci, Stony. Maître, qu'est-ce que vous lui dites?
Merci. Je commencerai par la dernière question d'abord. Mes coordonnées à moi, bon, si vous voulez me joindre, sur mon portable, je suis au 09 90 60 24 54. Je reprends 09 90 60 24 54. Et maintenant, vous pouvez également nous écrire en passant par l'adresse mail de notre plateforme que nous avons créée, Fevera. C'est que c'est fevera2012@yahoo.fr. Fevera, c'est F-E-V-E-R-H-A 2012. Fevera2012@yahoo.fr. Ok. La deuxième question, ce que vous demandiez, est-ce que la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes avec handicap va changer quelque chose réellement au niveau de personnes avec handicap qui vivent dans les fins fonds du pays? Merci mon frère pour la question. Je vous dirais qu'en réalité, et ça je le disais également à un groupe de personnes avec handicap il y a quelques jours quand on préparait notre festival, il faut savoir que la ratification de cette convention ne sera pas une panacée en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas un bâton magique qui va venir résoudre tous les problèmes que les personnes avec handicap connaissent à travers les pays. Mm-hmm. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous aurons maintenant au moins un instrument juridique à portée internationale que nous pourrons leur faire valoir devant les instances internationales au cas où il arrivait que notre gouvernement ne prenait pas des dispositions tendant à se conformer aux prescrits de cette convention internationale.
Est-ce qu'au niveau national, nous avons des lois
au niveau national, jusqu'à
présent,
qui
gèrent les personnes vivant avec handicap?
Malheureusement, je vais vous décevoir en vous disant que l'arsenal juridique de notre pays
n'existe pas encore.
Non, jusque-là, il est très pauvre, très très pauvre. Mmh. Il n'y a que cet article 49 dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'article de la Constitution, qui demande à ce que l'État puisse prendre les mesures tendant à faire la promotion de la personne vivant avec handicap. Mais il est dit à l'oralinéa qui vient tout de suite après, c'est que l'État devait prendre une loi spécifique qui tendrait alors à étudier tous les mécanismes pour valoriser cette personne. Malheureusement, cette loi-là tarde à venir. Il y a la sénatrice Eve Bazaïba qui est la présidente de la commission socioculturelle au niveau de notre Assemblée nationale, mmh, qui nous a dit qu'ils étaient en train de discuter pour voir comment peut-être on pourrait arriver à l'adoption de cette loi. Et hier encore, le ministre Charles Lawesh nous a dit qu'ils allaient débattre de cette question-là au Conseil des ministres. Nous attendons voir. Mais jusque-là, en tout cas, je vous dis, il n'y a aucune loi comme ça qu'on peut présenter, mm-hmm, qui puisse garantir les droits et intérêts des personnes vivant avec
handicap. Alors, une question aussi, l'auditeur vous a posé une autre question. Comment une personne malvoyante peut trouver un emploi digne?
Oui, malheureusement, je dis, c'est pas à nous de dire comment elle va trouver un emploi digne. Normalement, c'est l'État qui devait prendre des dispositions pour garantir tout cela, pour dire par exemple que, est-ce que vous savez que les personnes avec handicap, par exemple les malvoyants, eux aussi ils ont le droit d'aller dans des bibliothèques, ils doivent également consulter l'internet, mais on doit mettre en place ces mécanismes là pour dire par exemple que eux, puisqu'ils travaillent avec leur système de braille là, mais l'État devait prendre ces mesures là, même en les intégrant par exemple dans l'administration publique, mais là alors on prendrait des dispositions telles que il y ait alors l'utilisation du braille et le recours au braille. Par exemple, j'ai vu dernièrement même lors des manifestations publiques, il y a les recours à nos amis interprètes pour les amis sourds, vous comprenez, mais ça c'est à l'État qui devait prendre ça, et je crois que ce sont les mécanismes qu'on devrait étudier dans le cadre de cette loi, et c'est pour ça que nous disons, je dis, si l'État doit étudier cette loi-là, on doit absolument intégrer la personne vivant avec handicap, puisque l'autre problème de notre pays, c'est quoi, je dis, c'est qu'on prend les lois sans consulter les bénéficiaires.
Il faut les intégrer dans l'élaboration de ces lois. On y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir ces auditeurs. Ouais. Astrid Numbia nous appelle des Mbujimaï, Betty Mouaka est à Kolwezi, et Noé Mwamba à Manono.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Noé Mwamba, vous êtes à Manono, bonjour. Noé Mwamba, bonjour. Allô, Noé?
Bonjour, Jody.
Oui, on vous
écoute. Allô, bonjour.
On vous écoute. Hein.
Ok, je dis bonjour à Jody d'abord et à l'invité.
Merci, bonjour.
Alors, j'aimerais d'abord poser la question à l'invité. Est-ce que l'handicap peut être aussi comme une maladie héréditaire? Et encore, qu'est-ce que l'invité peut envisager? Qu'est-ce que l'invité peut conseiller aux parents qui envoient leurs enfants au banc de l'école? Quelle section, par exemple, peuvent-ils suivre à l'école secondaire, même aussi.
Vous parlez d'un enfant avec handicap.
Qu'est-ce que l'invité peut dire, peut conseiller aux parents qui envoient leurs enfants, donc les enfants handicapés vivant avec handicap.
Ok.
Merci. Astrid, merci Noé. Astrid Numbia, vous êtes en Bougimaï, bonjour.
Merci.
On vous écoute, Astrid.
Oui, oui. Je disais aussi ceci par rapport aux gens qui sont handicapés. Une personne peut vivre dans une société où il y a un handicap, par exemple dans un lieu éducatif. Alors, vous voyez, on dirait même que non, qu'il soit un maître ou une personne qui est disciplinaire dans la cour. Alors, les enfants sont les imitateurs de ce qu'un handicap peut faire ou entreprendre de différentes choses là. Est-ce que c'est bien?
Merci. Betty Mouraka, vous êtes à Colouisi, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité.
Bon, vous écoute.
Oui, je fais d'abord un coup de chapeau à l'invité. Apparemment, il est très, très courageux. Et je m'en vais donner mon intervention. Je disais, je peux diviser ce problème en trois parties. Mmh. Ce qui est très capital, c'est d'abord au niveau des familles. Parce que la famille doit jouer, la famille doit faire un grand effort pour soutenir ces handicapés-là. Parce que si dans la famille vous êtes découragé, donc même psychologiquement vous êtes déjà découragé, vous dites moi je ne vaux rien, je ne ferai rien dans la vie, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi des familles qui prennent ces handicaps, ils partent avec eux, les mettent devant les magasins pour commencer à mendier. Donc cet argent que les handicaps sont en train de mendier en cours de route, ça sert toute la famille. Donc c'est un problème. D'abord, l'invité doit donner, doit vraiment donner les conseils aux parents. Parce que si vous mettez au monde un handicap, ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc cet enfant, il ne servira à rien. Deuxièmement, c'est aussi à propos de l'entourage. L'entourage n'accepte pas facilement les handicaps. Donc, mais je me souviens quand j'étais en G1, il y avait même dans notre auditoire, les professeurs, ils avaient fait tout pour que les garçons là qui étaient handicapés, il est parvenu même à abandonner les études. Parce qu'on dit, selon la déontologie médicale, un handicap ne peut pas travailler parce qu'il doit commencer à effrayer les malades. Il y a aussi dans les cadres pédagogiques. Les handicaps n'arrivent pas à travailler selon leur déontologie. Ils disent qu'ils vont commencer à effrayer les élèves.
Betty, merci. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Merci, on a déjà retenu ce que vous voulez dire. Alors, on s'arrête là. On va donner la parole à notre invité, M. José. Vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je commencerai par répondre à la question de Noé qui demande si les handicaps étaient d'abord héréditaires. Je dirais que c'est faux. Les handicaps, notamment le cas, nous autres, nous sommes devenus personnes avec handicap simplement suite des suites de polio. Hein, puisqu'on ne nous avait pas vaccinés à l'époque, ben voilà, l'handicap est arrivé. Mmh. Bon, maintenant, par exemple, on parle de plus en plus aussi des amis qui ont développé l'anémie falciforme, qu'on appelle SS. Ça peut être héréditaire. Bon, si on le considère aussi comme personne avec un handicap, bon, ça, on peut dire peut-être que c'est héréditaire. Mais tout autre handicap n'est pas héréditaire, mon frère. Et puis, il faut d'abord demander comment on constate l'handicap. Moi, j'ai toujours dit, toute personne valide, c'est une potentielle personne vivant avec un handicap qui s'ignore. C'est pour ça que même hier, je l'ai encore dit au ministre, il ne faut pas croire qu'en ratifiant la Convention internationale de personnes avec handicap, c'est un cadeau qu'on fait à une minorité de gens qui n'ont rien à faire et qui ont échoué dans la vie. C'est faux. Puisque du jour au lendemain,
un accident peut arriver.
Vous qui êtes valide aujourd'hui, je dis, je ne le souhaite pas pour vous en tout cas, parce que, mais ça peut toujours vous arriver. Vous conduisez peut-être votre voiture. Moi, je connais quelqu'un qui s'était moqué de moi un certain temps quand je travaillais quelque part dans un bureau, j'étais secrétaire. Puis ce monsieur-là est venu chez nous, il me parlait avec condescendance, il me parlait avec dédain, puisqu'il voulait voir mon chef. Et puis je lui disais, le chef n'était pas là, il n'était pas d'accord. Ce monsieur-là, quelques mois après, il a connu l'accident. Il est devenu encore beaucoup plus handicapé que moi, vous comprenez. Donc les handicaps, ça peut contracter n'importe qui, n'importe quand, à n'importe où. Mmh. À cette question-là, j'ai déjà déjà répondu.
Voilà.
À la deuxième.
À la deuxième, quel conseil vous pouvez donner aux parents qui parfois refusent d'envoyer leurs enfants à l'école?
Ah, c'est une erreur.
Voilà, ils peuvent certains, à l'entourage qui se moque parfois.
On ne sait jamais dans la vie, je vous dis. Quand vous mettez au monde les enfants, vous ne savez pas d'où vous viendra les saluer. Moi, je me demande toujours, si les parents, par exemple, je cite un exemple comme ça par hasard, les parents d'un Jean-Claude Massangou ne l'avaient pas conduit à l'école. Si ses parents-là n'avaient jamais cru en lui, on aurait raté un éminent gouverneur de la banque, qui est parmi peut-être les meilleurs. Si, par exemple, les parents de, je ne sais pas qui, moi, il y a des amis qui sont personnes avec handicap, qui sont journalistes, qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont des juristes et tout, ils ne les avaient pas conduits à l'école, ces gens-là ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui à la société. Donc, je crois que les parents, vous devez accorder la même chance à tout le monde. C'est comme ça que les thèmes nationaux, cette année, jeudi, nous disons égalité des chances pour tous, brisons les barrières en ratifiant la convention. L'égalité des chances doit commencer d'abord dans la famille. Il faut que les parents accordent les mêmes chances à tous leurs enfants, puisque ces enfants-là n'avaient pas demandé de naître, ce sont eux qui les ont mis au monde, et ils ont l'obligation de les mettre au monde. Sinon, alors, nous pouvons nous saisir également de ces cas-là. S'il est avéré qu'un parent a discriminé son enfant, nous pouvons nous saisir de ces cas pour les traîner.
Alors, est-ce que les personnes vivant avec handicap sont organisées en association? Parce qu'il faut être ensemble pour militer pour la même cause.
Je crois que c'est une question que nous allons débattre la semaine prochaine, puisque les lobbies, nous le faisons déjà.
Oui.
Ce qui est vrai, c'est que nous travaillons dans une certaine diversité, mais tout en restant unis, je dis. C'est comme dans les partis politiques ici. Moi, j'ai toujours demandé aux gens, ils nous disent toujours, non, vous êtes désorganisés, vous avez plusieurs associations. Mais il y a combien de partis politiques au Congo? Il y en a 450, je dis. Mais il me semble que tous ces partis politiques-là travaillent toujours pour le bonheur du Congolais. Ben, nous tous aussi, nous sommes... Ben, écoutez, nous tous, je dis... Nous...
Alors, maître, dites-nous, vous êtes déjà organisé.
Non,
vous
avez, sommes, vous avez une fédération. Il y a une fédération, bien sûr. Il y a une fédération, mais qui a du plomb dans l'aile. On va...
Il y a encore des petits problèmes, je comprends. Alors, s'il y a des personnes qui veulent vous joindre, rappeler rapidement le numéro.
Les numéros de contact, c'est 09 90 60 24 54. Mais je voulais rapidement, Jody, répondre à ce monsieur qui a dit qu'on avait discriminé, tout simplement, on avait dit que comment quelqu'un qui a l'handicap ne peut pas faire la médecine ou tout le reste. Ça, c'est faux. Oui. Quelqu'un qui dit ça prouve vraiment devant tout le monde qu'il est ignorant.
On rappelle votre numéro, 09 voilà. 90 60
24 54.
Oui.
J'ai même des amis qui sont des médecins, qui sont des personnes avec handicap. Voilà. Donc, on ne peut pas nous discriminer à cause de ça. Et ceux qui veulent m'écrire, ils peuvent écrire Fevera, F-E-V-E-R-H-A 2012@yahoo.fr ou alors ils écrivent à josezoubi2002@yahoo.fr. Je dis, il y a plusieurs questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais
voilà, nous aurons le temps de revenir prochainement, bien sûr. Maître José, merci, à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, je dis, c'est que toute la radio au capille.